Mémodio, une mémoire sonore.
J'ai une première question ici.
Bonsoir à toutes et à tous, et j'ai l'honneur de vous poser la première question. Et la question que j'aimerais poser quand même, c'est que est-ce que ce type qui a été élu député, est-ce que ça reste symbolique ou il a apporté quelque chose réellement à son peuple? Ça, c'est la première. La seconde, il est passé d'esclave à député. OK? Aujourd'hui, on voit un type qui passe de cadre à maire et ça fait tout ce bruit-là. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu une rupture? Et la troisième, la meilleure récompense n'est-elle pas de faire en sorte que ça n'existe plus jamais? Parce qu'aucun procureur ne s'est auto-saisi du comportement des journalistes par rapport à ce nouveau maire qui a été élu. Merci.
Alors, trois questions, du coup.
Ouais, c'est très intéressant et on n'en a pas parlé. Effectivement, il a voté, il a participé à des votes quand il siégeait à l'Assemblée nationale, dont sur le travail des enfants. Il était vraiment dans le social. Hein. C'était quelqu'un de très engagé pour la condition des enfants en particulier et l'éducation. Il demandait à ce que tous les enfants soient éduqués. Alors, il parlait non seulement de la Guadeloupe, mais de tout le territoire français. Ouais.
Moi, je répondrais sur la suite, sur le côté contemporain. En fait, la France, elle s'est créée par vagues successives de beaucoup de populations qui sont arrivées à des moments. Donc là, vous parlez de Bali Bagayoko, côté Saint-Denis, et donc dont les parents sont originaires du Mali. Et en fait, ces vagues successives ne sont pas acceptées en général. On retrouve d'autres populations. Si on vient au début du XXe siècle, il y a différents moments, que ce soit des Italiens, que ce soit des Portugais, que ce soit, voilà. Il y a et même intra-France, quand les Bougnats qui viennent d'Auvergne, merci, arrivent à Paris, ben en fait, ils sont pleins de charbon. Et ils sont presque noirs, quoi. En fait, on les déconsidère et on est au 19e siècle. Donc, il y a différentes vagues comme ça et ça met toujours du temps, en fait, en France. On met toujours du temps à ce que les personnes qui viennent d'un ailleurs, mais même des fois un ailleurs à l'intérieur de la France, soient acceptées.
Question, madame.
Eh ben, j'aime bien le chiffre 3, donc bonsoir, je vais faire pareil que monsieur. Deux remarques et une question. La première remarque, c'est qu'on a été accueillis tout à l'heure et on nous a indiqué, en prémisse, que du coup la République promet l'égalité. Et je trouve que c'est dommage de réduire du coup la promesse à uniquement l'égalité, le triptyque qui est attendu et qui est prévu pour chaque citoyen. Ce n'est pas que l'égalité. C'est l'égalité, mais surtout la liberté et la fraternité. Et ça m'intéresse ce triptyque parce que je pense que c'est intéressant pour ma deuxième remarque. Ma deuxième remarque, c'est que vous avez parlé du coup de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je pense que ça a manqué de justice et ça a manqué de justesse. Parce que pour la bonne transmission de cette information, il faudrait qu'elle soit apprise et comprise dans son intégralité. L'alinéa 1er prévoit que les hommes naissent et demeurent égaux et libre en droit. Et c'est ça, en fait, qui était, à mon avis, du coup, l'acception la plus importante, parce que j'essaie de m'imaginer, du coup, un individu né en Martinique, pour un exemple, en 1830, pourquoi pas, ou non, mieux, en 1780, en 1790, il a 10 ans, en 1794, première abolition, il a 14 ans. Et peut-être qu'il va pouvoir jouir, pour la première fois, des libertés fondamentales que celle de d'aller et venir, la liberté de culte, la liberté d'aimer aussi, qui on veut, qui on a choisi. Et ensuite, il revient dans les fers. Et peut-être qu'en 1830, il a 50 ans. Et peut-être qu'en 1850, s'il vit encore, il a 70 ans. Et peut-être qu'il n'y croit plus, comme vous disiez, parce que du coup, c'est la deuxième abolition et qu'il n'est pas certain qu'il va pouvoir vivre. Et donc, rappeler que la liberté, c'est la possibilité également de demeurer égal à un autre, c'est important pour cet individu et donc c'est important pour tout le monde de se souvenir que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rappelle qu'on est, mais surtout qu'on demeure libre et égaux en droit. Et voilà ma question maintenant pour le romancier, pour Louisie. Je me suis demandé du coup si dans vos recherches, notamment aux archives départementales, si vous aviez trouvé une trace, peut-être du coup dans les archives, de ce qu'est devenu du coup son curé, son prêtre. Merci.
Non, j'ai trouvé aucune trace sur ça. Non. Tardivement, j'ai trouvé le nom d'esclave qui avait été donné à son père, à Louisy, et c'était Opprimé. C'était son prénom.
Et ce qui était un pied de nez, ouais, c'est ouais. Lui-même qui l'a choisi.
Oui, alors il y a eu beaucoup d'histoires. Ça a été terrible parce que au moment, surtout juste au moment où l'abolition arrivait, ils baptisaient avec des noms vraiment ridicules. Ils se moquaient des esclaves en les baptisant de façon saugrenue, quoi. Mais non, le curé, non, je sais pas. Mais il prenait des risques. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de. C'était interdit d'apprendre à lire et à écrire à un esclave.
Alors, j'ai une question là-bas au fond. Le temps d'y arriver.
Ce qui est bien, c'est si de ce côté-là, il y a une autre question.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ce parcours de vie de Louisy qui nous fait traverser le temps et qui nous ramène à des questions essentielles, fondamentales, sur effectivement l'esclavage, la traite négrière et ses évolutions. Moi, en vous écoutant, c'est vrai que je me pose la question du positionnement de la France. Certes, je pense qu'il y a des avancées et des reculs. 2001, loi de Toribera, effectivement, c'est un espoir. On va dire qu'on avance dans la bonne direction. Là, dernièrement, le 25 mars 2026, je considère ça comme un coup d'arrêt. La France s'abstient lors d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, un vote très important sur la reconnaissance de la traite négrière, l'esclavage comme le plus grand crime contre l'humanité. La France s'abstient. Trois autres pays votent contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Bon, ça ne m'étonne pas. Mais sur la France, alors je me pose la question de savoir si ce n'est pas aussi lié... aux relations quand même, on va dire, je t'aime moi non plus, entre la France et l'Afrique. C'est ça, les relations franco-africaines. Parce que quand on voit l'histoire entre la France, les relations entre la France et l'Afrique, on peut se poser quand même beaucoup de questions et surtout se dire que ben, la France sans l'Afrique n'est rien. vu les richesses de ce continent qui ont été quand même spoliées, les forces vives de ce continent ont été meurtries. Donc après, je pense qu'on n'est pas là pour juger, pour l'histoire fera son œuvre. Mais je crois qu'il faut profondément, par effectivement l'éducation, par l'école, par la diffusion de cette mémoire, de cette transmission, arriver à quand même à se poser autour d'une table et évoquer ces questions sans tabou. Moi, je pense qu'il faut effectivement aller plus loin dans la justice réparatrice. Il faut aller plus loin. Comme vous avez fait allusion tout à l'heure au peuple juif, effectivement, ils ont été meurtris dans leur chair avec l'Holocauste. Mais après, il y a eu une réparation. Il y a eu une réparation pas simplement... mémoriel, il y a eu aussi des réparations économiques, donc financières. Pourquoi pas l'Afrique et les afro-descendants ?
David ?
Alors moi, ce que je dirais, c'est là, on est sur une séquence politique et médiatique où le groupe Bolloré est très en avant. Et ce qui est intéressant avec ce groupe, donc, qui a des médias donc, qui sont vraiment contre les migrants, voilà, qui ont un discours donc, avec CNews, etc., donc, qui sont clairement positionnés, Europe 1, le journal du dimanche, qui sont positionnés donc, contre ces personnes qui viendraient de l'extérieur nous envahir. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il avait une industrie en Afrique. C'est ça qui est, et c'est bien symptomatique finalement de ce qui se passe entre la France et les pays que la France, dans une certaine mesure, a exploité, voire exploite encore. Après, c'est du business, hein, mais ça peut être vu comme une forme d'exploitation. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un travail à faire, mais même si on réfléchit de manière assez froide, et sur un calcul économique, si la France avait une meilleure relation avec ses anciennes colonies, on le voit, par exemple, les anglo-saxons, ils ont le Commonwealth, et ils mettent en place des relations de business avec leurs anciennes colonies. Et ça se passe bien mieux qu'avec la France, mais je pense qu'on y gagnerait. Bah, ça se passe mieux en termes de business, en tout cas. Ah, ça, tu pourras réagir. Bon, c'est ma vision personnelle. Mais pour le coup, moi je pense qu'en tout cas, pour revenir aux questions de mémoire, puisque c'est quand même ça qui nous occupe, il y a un énorme travail à faire, mais c'est ce que je disais auparavant, sur la question de la colonisation, c'est encore de la mémoire vivante, il y a des personnes qui sont vivantes, qui l'ont vécu, c'est très compliqué. On voit que sur la question des tirailleurs sénégalais, il a fallu vraiment une mobilisation très importante et côté Afrique et côté France pour qu'il y ait ces tirailleurs sénégalais qui avaient une retraite de militaires qui étaient restés au niveau des années 1960 en Afrique et on leur a jamais augmenté leur pension alors que tous les autres on leur avait augmenté leur pension côté France et ils s'étaient battus pour la France, voilà. Donc c'était pas même s'ils étaient plus français de nationalité, ils s'étaient battus pour la France et ils avaient leur solde grâce à ça. Voilà. Donc il y a effectivement un énorme travail à gérer. Mais quand on entend certains politiques aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement mûr. Il y a eu des moments dans les années 2000 où on voulait mettre dans la loi que la colonisation avait eu des bienfaits envers les colonies. Et ces personnes ne sont pas encore totalement parties du pouvoir.
Une autre question?
Oui.
Ou réaction?
Bonsoir. J'aurais une question à vous poser à tous les deux. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple, et je le constate aussi ailleurs, d'employer le mot qui se sont suicidés au lieu de le présenter comme déjà une première forme de refuser d'être enchaîné, d'être esclave. Et pourquoi ne pas tout simplement employer le terme « nous refusons d'être asservis, nous préférons mourir libre et d'en faire le choix ».
C'est bien ce que Marc a dit tout à l'heure, enfin, je vous laisse réagir.
On a pris le mot « résistance », je pense. Alors peut-être pas là, mais en tout cas, quand on a visité l'expo, j'en ai parlé. J'ai parlé des personnes qui avaient différents modes de résistance et qu'effectivement, le suicide, c'était un des modes de résistance.
Il y avait des empoisonnements volontaires, des esclaves qui s'empoisonnaient pour ne plus être asservis. Quoi.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils les laissaient au fer tout le temps, pendant toute la durée du voyage, aussi pour ne pas qu'ils puissent s'empoisonner, essayer de se tuer, etc. Parce que les colons, eux, ils avaient capté qu'il y avait cette forme de résistance. Donc, il fallait bien qu'ils trouvent des solutions. Et une des solutions, c'était d'enferrer, sans jamais les libérer, les personnes mises en esclavage jusqu'au bout du voyage.
Une autre question, monsieur?
Alors oui, moi, j'ai une remarque et une question qui peut aller pour vous deux. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été mis en avant... Moi, j'observe quelque chose, c'est que la France aujourd'hui, elle souffre d'un manque d'uniformité dans l'éducation et dans la manière de raconter les histoires. Par exemple, pour l'exemple des tirailleurs sénégalais, il y a un décalage dans la manière dont sont racontées des grandes figures. Je pense à, si on prend par exemple un Charles de Gaulle, il est le libérateur de la France de Paris, mais il est aussi l'acteur principal de l'invisibilisation des tirailleurs sénégalais. Si on prend un Napoléon, je pense que se parler de Napoléon aux Antilles, ça ne va pas faire sourire grand monde. Pourtant, on peut le voir au musée Grévin en Vernis. Donc je pense qu'il y a un gros problème dans dans uniformiser un angle de vue et de ne pas trouver différentes symboliques alors qu'on parle d'un ADN commun aujourd'hui. Ça reste, c'est évident que l'Afrique elle fait partie du code génétique français maintenant. Il faut pouvoir le dire calmement et c'est fait. Ce n'est plus une vue de l'esprit. Mais du coup, est-ce que un premier pas sur la réparation une des réparations, ce ne serait pas la réparation symbolique et d'arrêter d'être dans la sélection de l'information ou dans le deux poids deux mesures permanent. Et est-ce que Marx, c'est ça aussi que vous vouliez mettre en avant dans cette histoire de ce personnage ?
Ça fait beaucoup de questions en une seule, finalement. Marc, peut-être, et complément de David sur la question de réparation.
Ça démarre enfin, je suis très sensible à l'histoire de l'Afrique hein, et au mal que les Blancs ont fait. L'Afrique est découpée à la règle. Tous les pays, on mettait des tribus qui ne s'entendaient pas ensemble et d'autres, des royaumes qui se détestaient ou alors on les séparait. C'est une aberration quand on regarde la carte. Donc ouais, je suis super sensible à ça. Ça débute, le roman commence au Sénégal avec un symbole très fort qui est le baobab chez les griottes. Voilà. Et je vais pas spoiler.
Bien, je pense effectivement qu'il y a une manière de raconter l'histoire et qu'il peut y avoir plusieurs facettes de comment on voit l'histoire selon quel acteur on a été dans l'histoire et que le travail de l'historien c'est justement de se départir de ces plusieurs visions et d'essayer de donner une vision objective des choses. Je crois que on parlait à un moment de, je ne sais pas si on en a parlé, mais sur les questions de culpabilité ou quoi, les générations d'avant, on n'en est pas comptable, c'est pas nous qui avons géré. Par contre, on est comptable sur ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la question c'est plus qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et je pense que avoir une forme d'enseignement de l'histoire qui soit raccord avec les réalités du passé, en expliquant les contextes, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'effacer Napoléon, il ne s'agit pas d'effacer Colbert. Il s'agit de parler des différentes facettes de ces personnages historiques. Si on prend l'exemple de Napoléon, il y a eu une grande exposition sur Napoléon à la Villette, il y a 2 ou 3 ans. Et cette exposition était prévue et la FME, la Fondation de la mémoire de l'esclavage, en a eu vent. Et en fait, il n'y avait rien sur Napoléon qui rétablit l'esclavage en 1802. Donc ils ont mis leur grain de sel. Alors ça, c'est l'intérêt d'être à Paris et d'être dans les milieux institutionnels. Et donc, ils ont pu comme ça travailler sur les panneaux qui concernent Napoléon et le fait qu'il ait rétabli l'esclavage. C'est quand même très important. Parce que sinon, on ne parle pas à tout le monde en France. Hein, il manque une roue au carrosse. Et puis s'il manque une roue, ben, le carrosse va voilà, flancher. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces différentes visions. Parce que finalement, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi. Si on va dans un autre domaine, la question de l'Algérie. C'est compliqué parce qu'il y a des descendants de pieds noirs aujourd'hui et donc qui ont vécu là-bas. Il y a des personnes qui étaient sur place, qui étaient françaises, blanches, qui n'ont pas vécu les choses comme étant colonisateurs. Même s'ils ne l'ont pas vécu comme ça, après, il faut voir comment le pensaient les gens qui habitaient sur place et qui étaient des autochtones. C'est ça la question. Et je pense qu'il y a un travail de réconciliation à faire là-dessus. Voilà.
Peut-être aussi d'amener à assumer sa propre histoire. Hein, il y a des sujets comme ça,
l'histoire de l'esclavage, la mémoire de l'esclavage, pourquoi sur les chemins de la République on travaille énormément sur ces questions-là, celle de la colonisation, un petit peu de mal à l'assumer quand même, c'est pas encore tout à fait, me semble-t-il, développé dans les cours d'histoire de nos enfants, peut-être une tendance à réécrire l'histoire pour des raisons politiques, vous avez cité De Gaulle, on discutait cet après-midi avec David, il a également gommé toute une partie de la résistance parce que voilà, les communistes, ça devenait gênant de les honorer, tout simplement parce que la guerre froide était en train de commencer, quoi, hein, donc, bon, etc. Donc ça souligne surtout, me semble-t-il, si, avec l'autorisation de mes deux voisins, l'importance de la transmission. Parce que le récit, j'ai employé beaucoup ce mot récit parce que pour nous c'est très important, le récit national finalement, il ne peut pas être uniforme, il devrait être juste, précis, pointu, mais il faut différentes sources et peut-être qu'il faut autant il faut de temps pour la résilience qu'il faut de temps pour finalement assumer son propre passé parce que ça touche à de la culpabilité, ça touche à beaucoup de choses comme ça.
Il y a effectivement une histoire de temps parce que dans les Antilles, ils ont massacré tous les Caraïbes avant d'importer des esclaves. Enfin, ils en faisaient des esclaves d'ailleurs, hein, des Caraïbes. Mais ils les ont tous exterminés jusqu'au dernier, quoi. Et ça, c'est pareil, pourquoi on n'en parle pas plus que ça, quoi. On a une responsabilité atroce.
Ouais. Il y a un an, ici même, enfin un an, je ne sais plus, avec David. Vous avez probablement tous vu, ou une grande partie d'entre vous, on a fait l'avant-première du film qui est de France Télévisions, aux origines de l'esclavage, et qui avait une particularité, je parle sous le contrôle de David, d'être la première fois où en France, parce que j'avais posé la question pendant le débat, David m'a dit non, ça s'est fait dans d'autres pays, mais en France, c'était bien la première fois que sur le même documentaire, on avait des descendants d'esclaves qui discutaient avec des descendants de négriers. Et c'était toute la logique du film que je vous engage à regarder. France Télévisions vient de le remettre en replay sur la plateforme. Si vous ne l'avez pas vu, c'est encore possible. Voilà, il y avait quand même une première, et l'abolition de l'esclavage, on est d'accord, 1848. Voilà, il a fallu tout ce temps pour arriver à l'assumer.
Alors, on a deux questions.
Deux.
Soit on les prend à la filée, soit... Vous voyez,
ça va. Alors,
bonsoir. Moi, je suis restée un petit peu sur ma faim parce que vous avez dit au départ que c'était très difficile de rassembler des informations. Vous aviez trouvé très peu de choses. Du coup, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus de quel type de sources vous avez trouvé, quel type d'informations qui ont pu nourrir votre roman. Finalement, où est-ce que vous avez trouvé les informations, par qui elles étaient racontées, peut-être quel angle de vue?
Alors, on trouve, en cherchant sur Internet Louise Mathieu, on trouve quelques données, mais très peu. Et après, comme je disais, c'est vraiment aux archives départementales de la Guadeloupe que j'ai. Il y a deux livres en particulier, conservateur des archives départementales de la Guadeloupe à Basse-Terre. Il y a deux ouvrages, voilà, où il y avait quelques pages consacrées à Louise Mathieu. Et je m'étais empressé de noter toutes les données que j'ai utilisées dans le livre. Mais après, je le redis, il y a quelques zones d'ombre qui m'ont été utiles d'un point de vue romance, le regard du romancier, quoi. Voilà. Oui. On trouve. J'ai oublié le nom, mais il y a des hommes politiques qui ont siégé avec lui, qui en parlaient. Voilà. Alors à ce moment-là, avec Victor Hugo, ils n'étaient pas du même bord, mais il est probable qu'ils aient été dans la même loge maçonnique. Il a été intégré dans les cercles de pensée et ils étaient très en avance. Ils parlaient déjà. Enfin, Victor Hugo a démarré sa carrière comme conservateur et il a fini à l'extrême gauche. Normalement, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Ils évoquaient déjà le droit de vote des femmes, l'école pour tous. Tout ça, je le mentionne et c'est sourcé.
L'abolition de la peine de mort.
Ah oui, abolition de la peine de mort, exactement. Il parlait déjà de l'abolition de la peine de mort aussi. Ouais. Ouais.
Et surtout, tout ce qui se disait à l'Assemblée nationale était consigné.
Oui.
Donc c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Public Sénat et LCP. On peut voir, mais tout était consigné, tout ce qui se disait.
Oui.
Donc déjà, ça, c'est une source, forcément.
Mais par contre, il n'y avait pas de conservation nationale des archives instituée. Marc l'a cité. Enfin, voilà, vous avez les archives départementales dans chaque département, souvent les archives municipales. Il y a la Bibliothèque nationale de France. Ça, c'est la BNF qui, bon, etc. Voilà. Maintenant, c'est institué. En plus, c'est numérisé, etc. À l'époque. Il y a beaucoup d'archives qui se sont perdues entre deux guerres, deux incendies, ou qui simplement n'ont jamais été tenues. Il faut se rappeler quand même qu'avant la naissance de l'état civil institué par Napoléon, c'était dans les églises qu'il y avait les actes de naissance. Donc voilà, ça, je pense que ça complexifie aussi tout le travail de recherche historique sur certaines périodes en tout cas. Seconde guerre mondiale, c'est plus proche. En plus, il y avait une manie des vichistes et des nazis de tout consigner. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Une dernière question avant de passer à la conclusion. Ah, pardon, vas-y.
Pour répondre à la dame. Il y a Alexandre Dumas qui a beaucoup écrit sur lui. Ouais. Alexandre Dumas, il a fait une chronique en mars 1849. Qui est très longue et qui est très élogieuse. Donc,
que vous pourrez retrouver dans le vrai. Je me rattrape après les questions. Dernière question, madame.
Oui, moi, c'est sur le nom des rues. Quand on a fait la médiation, que j'ai trouvée très intéressante, d'ailleurs, j'ai appris plein de choses, et qui disait, vous disiez qu'il y avait des noms de rues d'esclavagistes qui sont encore à Bordeaux, c'est ça, à Bordeaux ?
Non, je parlais du comte de Villèle, c'est une rue à Toulouse.
À Toulouse ?
Ah oui, je parlais de Toulouse, je parlais de la rue de Villèle, en fait, qui est dans le 31100.
D'accord, et généralement, quand on met un nom de rue, par exemple, Émile Zola, en dessous du nom de la personne, on met écrivain, par exemple. Et moi, j'ai une suggestion, ce serait de mettre esclavagiste en dessous. Ou alors, on
peut mettre maire de Toulouse, président du conseil, esclavagiste.
Ou mettre le nom d'un esclave,
d'un esclave à la place. Les deux, comme ça, les zones de lumière et les zones...
Bon, de très, très bons marqueurs au chameau sauvage aussi.
Et tout à l'heure, je disais, Louis-Y Mathieu, il a une plaque de rue à Pointe-à-Pitre. Et il n'y a rien, il n'y a pas de sous-titre. Il n'y a pas...
C'est dingue.
Oui, alors ça vaudrait le coup.
Ou alors, une autre suggestion, on est en train de travailler, il n'y a pas assez de femmes dans les noms de rue. On mettait des femmes, on mettait un passe et un nom de femme, par exemple. Les grandes avenues, c'était pour les hommes. Et donc, pourquoi pas carrément enlever son nom et mettre le nom d'une grande femme ?
Pour une rue, moi, je pense qu'on peut changer le nom. Ouais.
Moi aussi. Merci.
Alors, avant de remercier David et Marc, merci à vous tous d'avoir été participatifs, d'être restés avec nous. Merci encore à Gabriel, à Ali, à Mourad, qui est à l'extérieur, je pense, mais voilà, qui a toute l'équipe qui a travaillé. Merci à la librairie Le Chameau Sauvage que vous allez pouvoir retrouver. Je vais y arriver, Ali. T'inquiète pas, j'oublie pas. Grand merci à nouveau à Anne Lagnolet et à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et puis à la CASDEN qui a permis que nous ayons cette exposition à notre disposition, il faut le souligner. Ça aussi, c'est un travail de transmission, hein, de concevoir les expos, de les amener. Voilà, je vous rappelle qu'à la fin de cet échange, dans quelques instants, vous pouvez retrouver non seulement nos amis du Chameau Sauvage avec une super table de librairie, vous pouvez trouver bien sûr le livre de Marc, et Marc lui-même est prêt à dédicacer son ouvrage juste à côté, et puis on peut s'attarder, discuter, rejeter un œil sur l'exposition, bien entendu, voilà, avec plaisir. David Crochet, Marc Large, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été aussi passionnant, c'était un vrai plaisir, et merci à vous tous. Bonne fin de soirée, au revoir.
Mémodio, une mémoire sonore.